Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots. Au réseau Cogeco.
Et on est dans le top 5 des observations d'OVNI au Québec. Christian, en réunion préparatoire, tu me l'avais raconté. Quand tu l'as raconté chez moi, à la soirée, tout le monde était au bout de son siège.
Ouais.
C'est l'histoire probablement la plus impressionnante et ce qui est très particulier... Pour les deux prochaines histoires, donc les deux premières positions du top 5, c'est que tu as fait enquête.
Ouais, dans ces deux cas-là, j'étais directement au centre de l'enquête, la première. Puis là, évidemment, on a présenté ce top 5-là. C'est pas dans, nécessairement comme la meilleure, la moins bonne. On présente simplement
non,
un top 5.
Non, mais je vous le dis, mesdames, messieurs, ce qui s'en vient, c'est hot.
C'est du lourd.
Ouais.
Donc, on est en 1989. On est le 20 novembre 1989, aux premières lueurs du jour, donc à peu près 5h30, des gens de la région de Sainte-Marie-de-Montnoir. Aujourd'hui, ça a été fusionné avec la ville de Marieville. Donc, plusieurs citoyens sont réveillés par des espèces de lumières qui zèbrent le ciel, des espèces d'éclairs lumineux. L'un des témoins, peut-être le témoin le mieux placé, va observer en tirant les rideaux parce que sa chambre est complètement envahie par cette lumière bleutée, un peu comme de la lumière d'un arc de soudure. Il se lève, il va tirer les rideaux et là, il voit au-dessus de la maison de son voisin d'en face, il faut comprendre que c'est une espèce d'enclave avec un parc au centre, et là, il voit au-dessus de la maison du voisin d'en face ce qu'il va décrire un peu comme un wagon de train dans la nuit. Donc, il voit des espèces de fenêtres allumées, des grosses lumières allumées. Il pense aussi à un véhicule 4x4 qui pourrait avoir des lumières sur le dessus. Il voit ces lumières, donc qui forment une rangée, comme des hublots. Et là, d'un coup, ça s'éteint. Quelques secondes plus tard, les lumières vont réapparaître, s'étant déplacées légèrement vers la droite. Elles vont refaire ça 3 ou 4 fois. C'est accompagné d'une sorte de bruit, comme il va dire, un peu comme un moteur qui forçait un... Et là, il voit donc ces lumières-là qui s'allument et s'éteignent. 48 heures après ces événements, alors que tout le monde parle, parce que alors que lui observe ça, ailleurs à Sainte-Marie-de-Montnoir, d'autres personnes, d'autres témoins vivent des phénomènes étranges. Le téléviseur s'allume, la radio s'allume, il y a des grésillements, il y a toutes sortes de trucs un peu bizarres qui se produisent. 48 heures après ces événements, derrière la maison où les fameuses lumières ont été observées, on va découvrir un cercle de 20 mètres de diamètre où l'herbe a reverdi comme en été.
Alors,
on est le 20 novembre 1989, l'herbe, le champ est jauni par l'approche de l'hiver. Il y a même tombé une petite neige au cours des dernières heures. Et voilà qu'on a ce rond de 20 mètres de diamètre où l'herbe reverdit comme en été. Alors, tu comprendras que les citoyens sont inquiets. Que fait ce rond-là? Est-ce que c'est radioactif? Est-ce que c'est lié à la présence de cet objet inconnu que beaucoup de gens ont observé? Alors, on décide d'appeler la GRC. Et c'est l'agent Antonio D'Angelo qui va être envoyé sur place, un policier de Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que, bon, c'est eux qui couvrent l'endroit pour Sainte-Marie-de-Montnoir. Les policiers de la GRC arrivent sur place, D'Angelo arrive sur place. Il voit le phénomène, il voit ce gazon reverdi. Il va prendre de nombreuses photos, va s'assurer que le terrain n'est pas contaminé, n'est pas radioactif, parce que c'est ce qui inquiète les citoyens.
Oui.
Si nos enfants jouent sur ce terrain-là, vont-ils devenir lumineux et radioactifs? T'sais? Donc, on s'assure qu'il n'y a pas de danger. Et là, voilà qu'on a cette trace. Et là, bon, le temps file, donc je raconte rapidement. Éventuellement, je suis informé de la présence de cette trace. D'Angelo me dit, il faut absolument que tu vois ça. Je me rends sur place et avec un collègue, à l'époque, je faisais de l'ufologie active sur le terrain, avec un collègue, François Bourbeau, qui dirigeait une organisation de recherche sur les ovnis, OVNI Alerte à Drummondville. On va prendre des prélèvements de sol, des prélèvements de végétation et de sol. Tout ça sera envoyé à l'Université Laval, au département des sols, en agronomie, et un type, Jacques Debroux, va se charger de faire les analyses. Pourquoi le gazon est-il plus vert à cet endroit-là? Pourquoi cette démarcation? Et les analyses vont démontrer que notre taux de chlorophylle a augmenté de 10 fois. Donc, on parle ici d'une augmentation de 1000%. Donc, la chlorophylle est 1000 fois plus élevée, un pourcentage de 1000% plus élevé dans le cercle que des carottages prélevés à l'extérieur. Et le taux d'azote est, lui, de 300%, le taux qu'il devrait être par rapport au carottage pris à l'extérieur. Jacques Debroux est catégorique. Si la trace est liée à la présence de cet objet observé 48 heures plus tôt, il est impossible en 48 heures de redynamiser un champ de cette manière-là en utilisant un engrais ou quelque façon mécanique.
Technologie humaine.
On ne connaît rien qui peut faire ça. Redynamiser un champ en 48 heures en plein mois de novembre, ça ne se fait pas. Et je te cite Jacques Debroux qui m'avait dit, écoute, si c'est un coup monté, le type qui a fait ça pourrait faire pousser des tomates dans le désert. Et ce qui est surprenant après cette histoire de cercle à Sainte-Marie-de-Montnoir, dans les années qui ont suivi, en plein été, il poussait dans ce champ, sur ce rond de 20 mètres de diamètre, une végétation tout à fait atypique au reste du champ. C'était vraiment renversant. Et bien sûr, on n'a jamais trouvé d'explication à la présence de ce cercle-là. Et l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une fraude, d'une manipulation, semble à peu près exclue. On est en présence d'un phénomène tout à fait inexplicable lié à la présence de lumière insolite dans le ciel de Sainte-Marie-de-Montnoir. C'est une excellente histoire d'OVNI.
Et le numéro 1, reste à peu près 3 minutes, Christian.
Le numéro 1, évidemment, je pense que beaucoup d'auditeurs l'ont deviné, c'est la nuit du grand OVNI de Montréal. Mais je vais t'avouer, on va passer rapidement, mais cette histoire-là, aujourd'hui, j'y mets un certain bémol et tu comprendras pourquoi. Donc, on est le 7 novembre 1990, il faut savoir que on émet ici le 98.5, on émet depuis la place Bonaventure à Montréal. Dans les derniers étages, il y a un hôtel, l'hôtel Hilton Bonaventure à l'époque, ouais. Et à cette époque, et encore aujourd'hui, il y a une piscine que les gens peuvent utiliser 365 jours par année. Alors, ce soir du 7 novembre 90, des gens se baignent dans la piscine et là, ils observent au-dessus de leur tête une espèce de couronne lumineuse, 7 ou 8 lumières ambre qui forment un cercle. On en parle à la lifeguard, la sauvetrice, qui, elle, va en parler à l'administration, qui va en parler au directeur de la sécurité et éventuellement, on va contacter les forces de police. La police de Montréal débarque sur les lieux. Il est à peu près 19h30, 20h et ils observent, alors que les policiers sont là pour prendre un relevé d'observation, ce qu'ils observent, c'est qu'il y a soudainement ces lumières dans le ciel. On imagine qu'il pourrait s'agir des lumières provenant du chantier du Mille La Gauchetière, là où se trouve le Centre Bell qui est en construction à l'époque. Ouais. On fait éteindre les lumières du chantier et le phénomène est encore là, bien visible. Il va demeurer visible pendant à peu près 3 heures alors qu'une couche de nuages descend sur Montréal qui va finalement avaler cet objet-là pour disparaître. Vers 21h, un photographe de la presse, Marcel Laroche, va se rendre sur place et va prendre une photo de l'objet. Ce que l'on sait éventuellement de ça, il y aura une enquête qui sera menée de manière privée et on va déterminer que la surface de l'objet, donc la grosseur dans le ciel, était d'à peu près 540 mètres, soit l'équivalent de 5 terrains de football. Évidemment, on ne connaît rien qui peut voler pendant 3 heures qui fait 540 mètres de diamètre. Toutes les explications qu'on avait proposées jusqu'à maintenant ne tenaient pas la route. On avait parlé de l'aurore boréale, on avait parlé d'un phénomène de reflet sur les nuages avec des lumières de chantier. Tout ça a été éclipsé. Pourquoi je dis que cette histoire-là, aujourd'hui, il faut y mettre un bémol? Il y a quelques mois à peine, alors que je discutais avec des spécialistes en physique atmosphérique, ils m'ont parlé d'un phénomène, reflet sur des cristaux de glace, qui pourrait, je dis bien qui pourrait, on le met bien ici le bémol, qui pourrait peut-être expliquer en partie le phénomène observé sur Montréal ce soir-là. Mais pour l'instant, ça reste encore une affaire non identifiée, inexpliquée.
Et c'est certain qu'on aura d'autres émissions sur les ovnis et les extraterrestres. Merci, Christian.
Ça m'a fait plaisir.
Toujours très intéressant et étonnant, ces phénomènes inexpliqués. On revient la semaine prochaine. Merci d'avoir été là.